Nous sommes un peuple en chemin qui vit pour un lendemain. Nous n'apprenons plus la haine, nous ne faisons plus de peine. Ce chemin est merveilleux car il conduit vers les cieux où est notre patrie. Où se trouve la vraie vie? Je suis déjà en chemin. Lève-toi, vent, tout est bien. Car notre Dieu est bon. Dans ce monde de merveilles, nous ne sommes plus pareils. Le chemin du paradis. Le bonheur de tout donner, de vouloir tout partager, dans la paix, dans la joie, par notre vie de foi. Ce jour est venu enfin, Jésus bénit l'heure de nos mains, car notre
sortir les moumoutes. Oh là là. Il y a Eric Ruiz qui m'a fait découvrir une vidéo et c'est tellement beau, je lui ai demandé de la mettre sur Révélation Bible. Elle y sera, je pense, en fin d'après-midi. Hein. C'est un témoignage extraordinaire d'un homme. Il faut que vous voyez ça. Je ne peux pas même vous expliquer. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais entendu quelque chose, c'est poignant, c'est vraiment poignant, c'est bouleversant. Et si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans un moment où vous êtes en train de vous poser des questions au sujet de est-ce que Dieu m'aime, mais pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela, eh bien, ce témoignage-là va vraiment vous parler. Que Dieu vous bénisse pendant que vous regarderez ce témoignage-là. Ce matin, on va lire Proverbes chapitre 1, versets 7 à 10. Vous savez que j'ai entrepris de vous parler au sujet des mystères, de la science de Dieu. On trouve ça dans Corinthiens. Il dit, si j'ai toute la connaissance des mystères de la science de Dieu, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître les mystères de la science de Dieu sous prétexte qu'il vaut mieux l'amour. Il faut l'amour et la connaissance des mystères de Dieu, vous êtes d'accord? C'est normal, c'est bien. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. C'est ce qu'on lit là, dans Proverbes chapitre 1, verset 7. Ensuite, il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, ma fille, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. Alors, comme dans toutes les sciences, il y a des lois. Hein? Il y a des lois physiques, il y a aussi des lois spirituelles, il y a des lois morales. Alors, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans ce monde, c'est vrai. Mais dans ce monde, il y a un autre monde, c'est le monde de Dieu, de ceux qui sont ses disciples, qui ont Jésus pour roi. Et il y a des règles du royaume. Est-ce que nous avons vraiment le choix des moyens? Non, mes frères et sœurs. Il nous faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme Jésus enseignait de le faire. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus parlait et Jésus agissait conformément à ce qu'il disait. Et quand on le regarde, il parlait principalement aux pauvres. Quand je dis qu'il parlait aux pauvres, ça ne veut pas dire qu'il parlait à ceux qui n'ont pas d'argent. Bien sûr qu'il parlait à ceux qui n'ont pas d'argent, mais il ne parlait pas seulement à ceux qui n'ont pas d'argent. Il parlait à ceux qui sont pauvres, qui se reconnaissent pauvres devant un Dieu si riche en tout, puisque créateur de tout est capable de faire les choses les plus extraordinaires. Et il les enseignait, ces gens-là, parce qu'ils étaient dans le besoin et le reconnaissaient. Si on ne reconnaît pas qu'on est dans le besoin, ben, alors évidemment, on ne vient pas écouter l'instruction. Ils reconnaissaient, ils se reconnaissaient pauvres. C'est ça que signifie cette béatitude, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire heureux les dingos, ça veut dire heureux, parce qu'il y en a qui le croient, des fois on se demande, mais bon, ça veut dire heureux ceux qui se reconnaissent pauvres devant un Dieu si riche. Il dit que, bon, il est la source de toute intelligence, de toute sagesse, mais il est aussi celui qui possède l'or et l'argent, les diamants et tout. C'est à lui tout ça. Donc ceux qui se reconnaissent pauvres devant ce Dieu créateur, eh bien c'est à eux que Dieu parle. Parce qu'ils ont cette humilité, alors Jésus leur parle avec douceur et puissance. Mais il leur parle, il se révèle à eux, parce que dans son plan, toute personne qui entend, n'est-ce pas, son enseignement, il devient un jour responsable de vivre, de pratiquer cet enseignement de la même manière que Jésus le faisait. Voilà pourquoi Jésus le faisait avec douceur et puissance. Il ne braillait pas, il parlait avec douceur, mais avec puissance. Parler avec puissance, ça ne veut pas dire crier. Ça veut dire que les mots qu'il employait, les tournures de phrases et l'esprit qui était en lui étaient puissants. C'est-à-dire que ça convainquait les gens, ça touchait le cœur des gens. Alors, il ne mettait pas cet enseignement, évidemment, dans les mains des orgueilleux, parce qu'ils en auraient fait un mauvais usage. D'ailleurs, quelques-uns, le peu qu'ils ont compris, regardez ce qu'ils en ont fait. Pour les orgueilleux qu'il entendait, ils entendaient les mots, ils comprenaient certains trucs, mais ils ne pouvaient pas comprendre la profondeur, n'est-ce pas, de ce que Jésus voulait dire. Tant qu'il y a de l'orgueil dans un cœur, les mots de Jésus sont dépourvus de puissance. Ils en ont un peu, parce que tous les mots ont de la puissance, mais il n'y a pas cette puissance divine. Alors c'est vrai pour ce qui est de l'orgueil, mais c'est vrai aussi pour ce qui concerne la crainte. L'orgueil et la crainte, vous savez... L'autre soir, j'ai regardé jusque près de 2h du matin l'ouverture des Jeux Olympiques. C'était un des spectacles les plus grandioses que j'ai jamais vu. Je regrettais de ne pas y être parce qu'alors qu'est-ce que c'était beau. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont vu, mais c'était magnifique. Et alors, on voyait tous les porte-drapeaux. Ils portaient l'étendard de leur pays. Et moi, je voulais voir le Suisse qui portait ou la Suissesse qui portait, n'est-ce pas, le drapeau, puisque je suis Suisse. Et j'étais touché de voir que c'était le seul qui avait les larmes aux yeux. Ah, c'est Suisse, on est émotif. C'était magnifique de voir ça, c'était extraordinaire de porter le drapeau dans un endroit aussi fabuleux. Eh bien, je dis, mes frères et sœurs, ça m'a fait penser que l'orgueil, l'orgueilleux et le craintif ne sont pas dignes de porter l'étendard de la vérité. Dans la crainte, il ne peut pas y avoir d'amour, d'après ce que Dieu nous dit. Il ne peut pas y avoir d'amour. Mais celui qui se sent pauvre, qui cherche... Dieu, il le trouve, Dieu se laisse trouver. Lui, qui est amour, il se laisse trouver. Et alors la crainte s'évanouit, les peurs s'évanouissent. La crainte au sujet de l'avenir, la crainte au sujet des autres, la crainte au sujet de ce que vont dire les autres, la crainte de tomber en chemin, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur, n'est-ce pas, dans leur vie, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, la crainte de la maladie, tout ça, ça s'évanouit, la crainte même de la mort s'évanouit. Celui qui est pauvre, c'est-à-dire celui qui est, comme je viens de le dire, qui se reconnaît pauvre devant Dieu, eh bien celui-là est heureux, dans le sens de en marche, en progression, sur une voie de rectitude, parce que il se confie dans le Dieu Tout-Puissant, dans le Dieu riche. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il nous est dit qu'Abraham était riche, qu'Isaac était fort riche et que Jacob était très très riche. Mais ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question, n'est-ce pas, de cœur, ils étaient comme cela. Quand je me suis approché de Jésus, Il y a une chose que j'ai remarquée tout de suite, son enseignement, si on l'applique, il a un pouvoir guérisseur. Par lui-même, il a un pouvoir guérisseur. Parce que son enseignement, c'est la vérité, quand on s'en nourrit, ça guérit. Ça guérit le cœur, ça guérit le corps, ça guérit les mentalités, ça guérit les situations. La vérité, elle a ce pouvoir en elle-même. C'est pourquoi Jésus dit « Je suis la vérité ». La vérité, ce n'est pas quelques arguments qui sont meilleurs que d'autres. La vérité, c'est vivant. C'est Jésus, il a dit « Je suis la vérité ». Et très souvent, la vérité, elle agit à notre insu. Même sans qu'on s'en rende compte, on s'en rend même pas compte. Et quand la vérité nous guérit de nos peurs, quand la vérité nous guérit de nos souffrances, alors cette vérité devient, il vient de notre devoir de partager cette vérité avec les autres. Maintenant, quand je dis qu'il guérit nos souffrances et nos peurs, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus jamais peur? Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus jamais de souffrance? Non, mais on saura pourquoi. Et on saura comment. Mais les souffrances sont toujours là. Et les peurs peuvent nous arriver, nous sauter à la figure. Non? Bien sûr. Jésus n'attachait pas d'importance aux cérémonies extérieures, mortes, religieuses. Il était le oin vivant. Il était la vérité incarnée. Et il était, et il est encore, la vie de la résurrection qui agit en nous. Pour ceux qui s'imprègnent de son enseignement, si on ne s'imprègne pas de son enseignement, ben voilà, ça reste un bouquin sur la table de nuit. Hein. Si on ne s'imprègne pas de sa science. Mais pour celui qui s'imprègne de sa science, eh bien c'est la vie de la résurrection qui prend, n'est-ce pas, le dessus sur notre vie. Et alors c'est lui qui croit et c'est nous qui diminuons. Et ça c'est une bonne chose, non? Oui. Bonjour mes frères et sœurs. Frères et sœurs, celui et celle qui suit Jésus-Christ en action, eh bien, il marche selon l'Esprit. Quand je vous ai dit « heureux, marche », c'est une démonstration, c'est une progression. Celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ en action, il marche selon l'Esprit et non pas selon la chair. Selon l'Esprit de Dieu et non selon l'Esprit qui est en train d'agiter les orgueilleux et les craintifs de ce monde. Maintenant, il faut que cela soit bien clair. Boire la coupe et prendre le pain, manger le pain, ce ne sont que des symboles parce que, en vérité, c'est quand on obéit à ses enseignements, à ses préceptes, à ses précieux préceptes, en suivant la démonstration que Jésus a exercée sur cette terre, dans la mesure où on comprend ce qu'il a voulu dire et ce qu'il a voulu faire, c'est quand on obéit à ce que nous pouvons comprendre que nous avons la vie, c'est-à-dire le sang de Christ dans nos veines, et que nous avons sa chair, ce n'est plus notre chair, c'est même la sienne. C'est alors seulement que nous sommes baptisés, c'est-à-dire immergés dans sa pureté. C'est seulement quand on obéit, c'est pas simplement parce qu'on a levé la main dans une réunion ou parce qu'on s'est fait baptiser par immersion ou que on dit Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ. Non, c'est pas ça, c'est quand on obéit. C'est seulement quand nous obéissons, c'est-à-dire quand nous démontrons notre foi dans des œuvres dignes qui sont préparées d'avance par Dieu pour que nous les fassions, des œuvres dignes qui sont décrites, qui sont ordonnées, qui sont là, ces règles, eh bien que nous pouvons entrer dans son repos. Sinon, il n'y a pas de repos. Maintenant, je ne veux pas dire que quand on est dans la souffrance, on peut être dans la souffrance et dans le repos. Sans cette obéissance, à ce que nous avons compris, on n'est en fait que des charnels, et il n'y a pas de chrétiens charnels. Il y a des chrétiens et il y a des charnels. On n'est que des charnels qui connaissent des belles paroles. Hein, moi, je connais aussi des belles paroles de Molière, des belles paroles de Victor Hugo, des belles paroles de La Fontaine, des belles paroles. Mais si on ne fait que de les connaître intellectuellement et qu'on peut en parler dans les salons, nous ne sommes rien de plus que des charnels. Ce qu'il faut, c'est que nous mettions ces choses en pratique, que nous les vivions. Mes frères et sœurs, C'est dans son repos que nous sommes invités à entrer. Et nous n'y entrons que par l'obéissance. Et notre être, il ne peut être dans le repos tant qu'il est agité par l'esprit du monde, c'est-à-dire cet esprit d'orgueil, cet esprit de crainte, cette folie en fait. Il faut imposer le calme à toute cette tempête de folie. Plus vous vous approchez de sa ressemblance dans vos actes d'amour, de foi, d'obéissance, plus vous entrez, vous allez me dire dans le repos, oui, en conflit avec l'esprit qui agite les gens de ce monde, les orgueilleux, les craintifs. Alors nous savons, nous autres, que Jésus revient bientôt. Il y avait une fausse prophétie depuis 4 ans qui circulait, qui disait que Jésus reviendrait le 24 juillet. Eh ben, je ne sais pas où il est le bonhomme qui a dit ça. Il doit se mordre les doigts quelque part là-bas en Australie, le pauvre. Mais comment on peut être bête? Nous savons que Jésus revient bientôt, point. Il faut que nous soyons prêts maintenant. Amen, tout le temps. Et le temps est arrivé, mes frères et sœurs, parce que nous voyons les signes, où les gens qui voient penseront rendre un culte à Dieu, agréable à Dieu. Ils agiront mal contre vous parce qu'ils n'ont pas connu le Père ni le Fils. Ça, c'est ce que Jésus enseigne. Il nous dit, ils vont agir mal contre vous, ils vont vous faire du mal, ils vont vous haïr. Vous savez, la coupe que nous prenons est le symbole de l'expérience amère que Jésus-Christ a faite. Il a prié le Père de l'éloigner de lui en parole, mais il s'est incliné avec une sainte soumission en action devant le décret divin. Il l'a fait, il l'a vraiment bu. En parole, c'était différent. Parce que la crainte rentrait en lui, n'est-ce pas? Mais il a pris le dessus et en action. Vous voyez, c'est bien de dire Jésus, Jésus, je crois en Jésus en parole. Mais il faut aussi en action. Mais si même nos paroles, elles sont contraires à ce qu'on va faire, alors, vous voyez, il vaut mieux que nos paroles soient « Non Seigneur, je veux pas, si seulement tu pouvais éloigner. » Mais quand même, il le fait. Vous voyez? Très différent les paroles et les actions. Il devait boire cette coupe amère. Et il l'a bu. Et juste avant de la boire, il en a parlé. Et vous savez ce qu'il a dit? Ça, on ne fait pas toujours attention à ça. Il a dit, buvez-en tous. Quand Jésus a dit ça, c'était lors d'un repas lugubre. C'était un souper triste. C'était au crépuscule d'une formidable carrière. C'était le moment où les ombres de la nuit glissaient sur Jérusalem. C'était pendant le repas du soir que Jésus leur a dit « Buvez-en tous. » Parce que si le maître a souffert, il est normal que les disciples souffrent aussi. Trop souvent on me dit « Mais Jésus a souffert pour nous, alors pourquoi est-ce que nous aurions besoin de souffrir ?» Il a souffert pour nos péchés. Nous n'avons pas à souffrir pour nos péchés. Ah ben non, si vous souffrez pour vos péchés, si vous souffrez à cause de vos péchés, ça c'est une autre histoire. Mais Jésus, il a souffert pour vos péchés. Maintenant, nous n'avons pas à souffrir pour cela, ni pour les péchés des autres. Mais nous avons à souffrir parce que nous voulons faire ce qu'il dit que nous devons faire. Vivre aujourd'hui, comme le Créateur le veut, c'est vivre en opposition totale contre l'esprit majoritaire, orgueilleux et craintif et fou de ce monde. Et vous croyez que ça va pas vous faire souffrir? Mais bien sûr que ça va vous faire souffrir. Alors buvez-vous cette coupe? La buvez-vous? Avez-vous pris part au sang de la nouvelle alliance? C'est-à-dire aux persécutions qui accompagnent la compréhension rétabli de la vérité aujourd'hui, parce que la vérité, elle a été transformée au cours des siècles par l'apostasie, mais maintenant Dieu est en train de rétablir toutes choses. Est-ce que vous avez pris part aux persécutions qui accompagnent la compréhension qui a été rétablie par le Saint-Esprit dans ces derniers temps? Renoncement, quitter pour Jésus. Alors il est vrai que celui qui quitte pour Jésus, qui abandonne pour Jésus, qui renonce pour Jésus, sa vie, il renonce à sa vie, à ses biens matériels, à ceux qu'il aime, celui-ci, celui-là, celle-là, reçoit, la Bible nous dit, au centuple dans ce siècle-ci. Alors on se réjouit, voilà. Et les prédicateurs d'abondance disent, voyez, si vous donnez à Dieu, vous allez récolter au centuple. Alléluia! Évangile tronqué. Parce que la Bible dit, c'est avec des persécutions. Et puis pour fin, la vie éternelle, enfin pour fin. Et la vie éternelle dans l'autre monde. Mais on nous prêche, repentez-vous, soyez baptisés d'eau. Hein? Et si vous faites cela, vous avez l'abondance promise par Jésus dans Jean 10:10. Voici, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. C'est un faux évangile, mes frères et sœurs. Ils oublient, je dirais même qu'ils veulent oublier. Luc 14, 33, Marc 10, 28, 30, ils veulent oublier ça. Tout à l'heure, Alain parlait au sujet des gens qui ne croient pas, qui disent que voilà, nous n'avons qu'une vie. Moi, je dis qu'ils ne croient pas qu'il n'y a qu'une vie. Ils veulent croire qu'il n'y a qu'une vie. Parce qu'il est écrit que Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité, mais ils l'ont effacée, ils ne la veulent pas, ils la rejettent, ils ne veulent pas de ce Dieu. Ils ne veulent pas de l'éternité. Ils ont peur de l'éternité. Ils pensent autre chose. Ils se distraient. Et quand ils vous disent, mais non, moi je crois pas du tout. Moi, aucune conscience d'éternité. Ils vous mentent. Ils veulent oublier. Luc 14, 33. Ils veulent oublier Actes chapitre 2. Ils veulent oublier Actes chapitre 4. Ils veulent oublier Galates 6, 6. Ils veulent, par contre, ils veulent Jean 10, 10. Ah, ça, ils veulent, hein. La vie abondante, et même ils disent, et dans certaines versions, c'est écrit surabondante, et ils pensent que la vie abondante, c'est la vie abondante d'argent. Mais non, la vie abondante, c'est la vie abondante de tas de problèmes, des tas de problèmes, afin qu'on puisse avoir la possibilité de manifester des tas de solutions de foi, c'est ça la vie abondante. Ah, mais quand on veut voir l'argent partout, on trouve l'argent partout, hein. Ils ont trouvé une doctrine, là. Mais c'est pas un vrai évangile. Mes frères et sœurs, il ne marche pas selon l'esprit. L'esprit, c'est la parole de Jésus, les paroles rétablies de Jésus dans son église de la fin. Vous savez, vous qui avez accompli Luc 14, 33, Marc 10, 28, 30, et toutes ces choses, êtes-vous persécuté? Marc 10, 28, 30, c'est celui qui aura abandonné son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons à cause de moi. Les retrouvera au centuple avec des persécutions et la vie éternelle. Êtes-vous persécuté? Quelles sont les origines de votre persécution, de vos difficultés? Les gens qui vous voient que vous avez des problèmes et aux yeux du monde, ils pensent que, voilà, ils disent, bon, ils sont comme nous, ils ont des problèmes comme nous, qu'est-ce que ça leur fait, ça change quoi même d'être chrétien? Ils ont les mêmes problèmes que nous. Faux. Aux yeux de Dieu, l'origine de leurs problèmes est différente. L'origine de nos problèmes est différente. Pour eux, je parle pour ceux de ce monde, quand ils sont dans les difficultés, ils prient. Ils prient. Et ils peuvent être exaucés. Vous avez remarqué, vous avez des inconvertis ou des nouveaux convertis. Ils connaissent presque rien la parole de Dieu. Ils prient, paf, ils sont exaucés. Vous avez remarqué ça? Et vous, quand vous marchez avec Dieu dans la fidélité, dans la consécration depuis des années, Dieu, de temps en temps, on dirait, il dit rien du tout, il parle plus, il exauce plus. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu m'as laissé. Mais non, il faut que tu comprennes le plan de Dieu. La sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, de la science. Pour vous, vous priez. Mais il se peut que Dieu veut que vous gardiez votre écharde. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Parce que si le mal vous atteint, ce n'est pas pour les mêmes raisons que quand elles atteignent les gens de ce monde, les non-croyants. L'origine des maux qui vous arrivent est que vous avez choisi de marcher avec votre Dieu. Et cela, ça fâche les démons. Qui vous pousse, qui essaye de vous décourager et qui essaye de vous faire perdre votre foi. Le mal vous atteint, vous priez, la délivrance semble tarder. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu tire gloire de votre comportement quand vous êtes dans les tourments, quand vous êtes dans la difficulté, quand vous êtes attaqué, Dieu tire gloire de votre comportement parce que vous êtes des gens qui demeurez doux malgré tout, parce que vous relevez la tête malgré tout, parce que malgré tout vous faites tout sans murmurer ni hésiter selon la parole de Dieu de Philippiens 2, 14. Et Dieu tire gloire de cela. Pour quelle raison je souffre? Pour glorifier mon Dieu. Ah bon, moi je croyais que c'était quand je suis guéri que je glorifie Dieu. Moi je croyais que c'est quand je suis riche que je glorifie Dieu. Moi je croyais que c'est quand tout va bien, que tout le monde peut voir que ma vie est formidable. Alors je pensais que c'est ça qui glorifiait Dieu. Ça glorifie plus Dieu quand tu souffres et que tu te comportes avec foi, avec diligence, avec bonté, avec douceur. Parce que vous avez compris une chose grandiose que Paul avait comprise. Paul avait compris et vous avez compris que vous ajoutez en vous-même, sur vous-même, les souffrances qui manquent à celles de Christ. Colossiens 1:24. Colossiens 1:24. On va le lire. Alors, j'ai pris plein de petites notes, il faut que je retrouve. Colossiens 1:24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous avez compris qu'il y a des souffrances qui sont voulues, qui sont permises par Dieu, et vous les acceptez dans votre propre vie. Comme Paul, vous comprenez l'importance d'avoir part aux souffrances, même excessives. Vous connaissez le verset qui dit que nous ne sommes pas tentés ou éprouvés au-delà de nos forces? Vous le connaissez? Hein, ça, on est très positif, on le connaît tous. Mais est-ce que vous connaissez 2 Corinthiens 1, 7-8? 2 Corinthiens 1-7-8. Écoutez bien ce qui est dit là. 2 Corinthiens 1, 7, 8. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Au-delà de ses forces, je peux plus, j'en peux plus, c'est plus possible. Paul avait compris, il rajoutait en lui-même les souffrances qui manquent à Christ, et parfois ça arrivait que c'était excessif, que c'était au-delà de ses forces. Mais ayant part aux souffrances, il avait aussi part à une consolation qui venait peut-être des fois tardivement, mais qui finissait toujours par arriver. Parce que le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Les premiers disciples qui vivaient cet enseignement, qui est aujourd'hui rétabli parce qu'il était oublié, on a mis de côté cet enseignement. Maintenant, on veut un évangile de bonheur, de paix, de joie, de prospérité, de santé, de guérison, miracle. On veut plus, n'est-ce pas, un évangile de responsabilité, de renoncement et de souffrance. C'est fini, ça c'était bon pour le Moyen-Âge, qu'on dit, hein. Eh bien, les premiers disciples qui vivaient sans cet enseignement communiaient aux souffrances de Jésus-Christ. Les souffrances de Jésus-Christ abondaient en eux. 2 Corinthiens 1, 5. Écoutez bien ça. 2 Corinthiens 1, 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Quel drôle d'évangile, n'est-ce pas? Mais c'est aussi l'évangile, c'est aussi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est un tout. On ne peut pas juste prendre, n'est-ce pas, un machin pour... Voilà, ah ben non, ben moi, dans ce gâteau, ce que je préfère, c'est les fraises. Je laisse la croûte. Ah non, moi, dans la tartine, ce que je préfère, c'est la confiture. Je laisse le pain. Non, on prend tout ou rien avec Jésus. Mais bon, Dieu est compatissant et il ne tient pas compte d'ignorance. Mais maintenant que vous savez ces choses-là, Prenez part avec joie, sans murmure ni hésitation, aux souffrances de Christ. À Timothée, Timothée 4:5, Paul écrivait, supporte les souffrances, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4:5. Ah nous, on supporte plus. Parce qu'on est une génération comme ça, on a mal à la tête, on prend une aspirine. Hein? On a un petit truc, on va chez Navo. Bonjour Monsieur Navo. Moi j'aime beaucoup Monsieur Navo, c'est notre médecin ici. On supporte plus la douleur, on supporte plus la souffrance. Et quand on a un problème, et puis que l'aspirine ça fait rien du tout, qu'est-ce qu'on fait? On prie, Seigneur, délivre-moi. Mais non, pas toujours. Pas toujours. Prenez part aux souffrances. Il a souffert, Jésus a souffert. Il nous est dit dans Hébreux 2, 10 qu'il a été élevé par la souffrance. Comment pensez-vous que nous pouvons être élevés dans ce monde diabolique et méchant? Comme notre maître. Comme notre maître. Les mauvais esprits, ceux qui sont incarnés, c'est-à-dire ceux qui sont dans les gens qui vous embêtent là. On a tous des gens qui nous embêtent. Hein. C'est pas eux qui nous embêtent, c'est les mauvais esprits qui les animent. Alors, il faut pas leur en vouloir à eux, c'est les mauvais esprits. Il faut les chasser au nom de Jésus. Hein. Alors, les mauvais esprits qui sont incarnés et les autres, ceux qui sont pas incarnés et qui tournent autour de vous, cherchant à vous dévorer, ils veulent vous faire la guerre. Ils veulent vous faire la guerre de toute façon. Alors, est-ce que vous souffrez en faisant le bien? Ou est-ce que vous souffrez en faisant le mal, parce que vous faites le mal? Ceux qui sont dans ce monde souffrent parce qu'ils sont en guerre, comme l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 2.11, c'est-à-dire dans 2 Pierre 2.11, il est en train de leur dire « la convoitise fait la guerre à l'âme ». Alors ils sont en guerre, n'est-ce pas? C'est une guerre. Leur guerre, c'est leur convoitise qui fait la guerre à l'âme. Est-ce que vous souffrez parce que la convoitise fait la guerre à votre âme, ou est-ce que vous en avez fini avec ça? Ceux qui ont souffert, qui ont pris part aux souffrances de Christ, la Bible nous dit, ont fini avec ça. Que vous n'ayez... Est-ce que vous souffrez parce que vous n'avez pas ceci, ou est-ce que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, ou parce que vous n'avez pas tout ce que vous convoitez, ou parce qu'on vous a volé, ou est-ce que vous souffrez parce que vous vous êtes consacré et que vous êtes un esprit qui est en totale opposition avec l'esprit de ce monde? Ah, ça c'est différent. 1 Pierre 4, 13 à 19 nous enseigne. Permettez-moi de vous lire ça. 1 Pierre 4, 13 à 19. On peut déjà lire 12. Mes bien-aimés, mais ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose de bizarre ou d'étrange ou d'extraordinaire. Mais il dit, ne trouvez pas cela étrange. Vous croyez que Jésus-Christ, on fait une prière, c'est presse-bouton, il va vous délivrer de... Non, mais trouvez pas étrange. Il dit, au contraire, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ Jésus, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, donc, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou puisse être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, comme disciple de Jésus parce qu'il obéit, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, parce que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, c'est-à-dire Dieu commence par juger sa maison d'abord. Alors il dit, or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? À quel évangile? Cet évangile à deux balles qu'on nous enseigne là, cet évangile... de la consommation, ou cet évangile profond qui inclut aussi que nous ayons à prendre part aux souffrances de Christ. Or, si c'est par nous qu'elle commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à cet évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Il aurait suffi que je vous lise ce texte et ça aurait été parfait. Mais bon, il faut que je justifie mon... Non, je n'ai pas de salaire. je me voyais poussé à vous dire ces choses aujourd'hui parce que je sais que parmi nous, il y en a qui souffrent. Je sais que sur Internet, il y en a qui nous écrivent et qui sont dans la souffrance. Je pense en particulier à tous nos frères et sœurs qui sont dans les pays totalitaires et qui arrivent à nous capter sur Internet. Prenez courage. Votre sacrifice, votre souffrance, elle est comptabilisée par Dieu. Il tient des comptes. Il a mis une table de comptabilité en face de vos adversaires, entre vous et vos adversaires. Il tient des comptes. Les comptes de leurs actions et les comptes de votre comportement, de vos réactions. Alors il dit, faites le bien, vous avez vu? Remettez votre âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Faites ce qui est bien. Tout ce que vous trouvez à faire qui est bien, faites-le. Arrêtez de demander à Dieu, « Ah, mais Seigneur, est-ce que ça, c'est ta volonté que je fasse ?» Oui, puisque c'est bien, c'est sa volonté. Fais-le. Tout ce que vous trouvez dans la parole de Dieu, faites-le. La Bible nous dit tellement de choses. Et on nous enseigne trop, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais il y a tant de choses que la Bible dit que nous pouvons faire, que nous devons faire. Alors, c'est le moment, quand vous êtes dans la souffrance, de relever la tête, de regarder à Jésus et de faire le bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ces quelques mots d'enseignement que j'apporte à mes frères et sœurs. Je te prie que cela les soutienne dans leur foi, que cela les aide. Je te prie aussi que tu les oignes d'une façon particulière alors qu'ils seront en train de regarder cette vidéo que nous mettons sur Révélation Bible dès cet après-midi, de cet homme qui est né d'une manière tellement terrible et qui a vécu et qui vit encore d'une manière tellement... Personne ne voudrait avoir cet handicap. Mais mon Dieu, merci pour ce que cet homme démontre par sa foi. Merci Jésus. Et permet que chacun d'entre nous puissions prendre un exemple aussi, en regardant non seulement à toi Jésus, mais aussi au saint qui nous entoure et qui nous montre un bon témoignage, comme cet homme-là qui nous montre un bon témoignage. Comment doit se comporter un disciple dans la souffrance? Merci Jésus. Amen.
D'abord, j'aimerais remercier mon père, ma mère, pour leurs paroles et leurs exemples chrétiens. En fait, j'ai toujours aimé Dieu depuis que j'ai tout petit, parce que je suis née dans la communauté. Mais pendant les vacances, j'ai pris conscience du bien et du mal, et j'ai choisi Jésus-Christ pour maître. Et cet après-midi, mon père et mon grand-père, ils vont me baptiser, et je sais que Dieu, il va toujours être avec moi.